RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, j'ai honte. Je n'ai pas pu vous souhaiter le 14 juillet parce que j'étais pas là. Alors je vous souhaite bon 14 juillet. Et puis bon, puis le restant, hein. Ben oui, après le 14 juillet, il y a le 15 août. Qu'est-ce qu'il y a encore? La rentrée des classes. Bonne rentrée des classes, les enfants. Oh, j'allais oublier. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore après? Mais il y a la fête des morts. Oh, non, je parle pas les morts en Algérie, là, hein, au Maroc. Non, je parle des morts, des gens qui décèdent. Voilà. Bon, paix à leur âme. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a la Sainte-Catherine. Ah oui, vous savez, ces fameuses demoiselles qui pensent qu'elles vont trouver un mari parce qu'elles se mettent un chapeau un peu foufou sur la tête. Et il y en a une qui avait mis une tour Eiffel, figurez-vous. Mais ça, c'était en 1700. Elle avait déjà l'imagination de se mettre une tour Eiffel en 1700, au bal des folles, à la Salpêtrière, figurez-vous. Eh oui, elle était en avance sur son temps. Hein. Ouais. Et même Gustave Eiffel n'était pas encore né. Vous vous rendez compte? Quelle prémonition! Oh, c'est formidable, des femmes comme ça. On ne peut que les aimer, des femmes qui ont autant d'imagination. Vous vous rendez compte? Hein? Moi, la mienne, elle m'avait pris pour Napoléon quand j'étais petit, j'avais un gros ventre, ouais. Mais j'avais 9 ans. Me prendre pour Napoléon à l'âge de 9 ans, quand même. On aurait pu dire l'aiglon. Pas Napoléon, l'aiglon. Hein? Bon, allez, on arrête vos conneries. Bonne année. Quand même, hein. C'est pas parce qu'on est le 9, mais c'est à cause de la direction de la radio, si je viens que seulement maintenant. Et oui, ils ont pris 15 jours de vacances, vous vous rendez compte? Moi, je prends jamais de vacances. Hein? Ah, oui. Ah, Reine-Marie, oui. Ah ben oui, je suis retraité. Oui, pardon, excuse-moi, je voyais plus, tu sais, mais moi, je fais tellement de choses que j'ai l'impression que je suis pas retraité, moi. Hein. Ah non, moi, on me retraite pas, moi. Hein. Ouais, bon. Allez, on commence. Alors, pour la nouvelle année, enfin la nouvelle, le 9 janvier, hein, bon, mais pour moi c'est la nouvelle année, parce que je vous rencontre pour la première fois de l'année, là, parce que il va y avoir, ben dans le coup il n'y aura même pas 52 émissions, hein, il y en aura peut-être 51, peut-être même moins, hein, parce que c'est que nos employés vont encore prendre des vacances, mais oui, et oui, qu'est-ce que vous voulez, on aurait dû prendre des retraités pour faire la radio, comme ça, pas de vacances, voilà, hein, voilà, pas de samedi, pas de dimanche, voilà, hein, pas de jour férié, quoi, hein. Allez, et alors Victor Hugo, il nous annonce, sans nous prévenir, qu'il aime l'araignée. J'aime l'araignée, qu'il dit. Oh, j'aime l'araignée et j'aime l'ortie. Parce que l'on les hait, et que rien n'exauce, et que tout châtie leur morne souhait. Parce qu'elles sont maudites, chétives, elles sont noires rampants. Parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens, parce qu'elles sont prises dans leurs œuvres, ô sort fatal nœud, parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée un gueux, parce que qu'elles sont en l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit, parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, ô pauvre animal, plaignez la laideur, plaignez la piqûre, ô plaignez le mal. Il n'est rien qui n'ait ma mélancolie, tout veut un baiser, dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser. Pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent « Amour ». Juillet 1842. Vous vous rendez compte, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, on pourrait dire la même chose aujourd'hui, parce que je connais pas beaucoup de gens qui aiment l'araignée, et encore moins qui aiment l'ortie. Hein. L'ortie, ça pique. Hein. Par contre, la soupe d'ortie, c'est vachement bon. Et l'araignée cuite avec du jus de viande, un vrai délice. Oh là là! Eh, hey, Reine-Marie, tu devrais y goûter, tiens. Hein. Non, moi, je viendrai pas, ça va être trop loin pour bouffer de l'araignée. Hein. Je veux pas faire 900 km pour bouffer de l'araignée. Hein. Non. Il y en a chez nous. Hein. En Périgord, il y a des araignées. Hein. Bah, j'en ai dans mon jardin, j'en ai même dans la maison, hein, je peux te le dire. Hein. Alors je les garde, je leur donne à manger, tu vois. Le soir, elles viennent me caresser, elles courent sur mon corps nu, tu vois. Oh, c'est joli. Et alors, il y en a qui piquent. Alors, celle-là, je leur ai dit, vous restez à la porte, hein. Vous ne rentrez pas dans la maison. Hein. Et elles m'ont obéi, il n'y a que les gentils qui rentrent. Ouais. Faut dire que, bon, elles ont un mot de passe hein, pour rentrer. Ah oui, et on ne rentre pas comme ça chez moi sans un mot de passe. Hein. Ah non. Allez, bon, allez. Bon, c'est presque vrai hein, ce que je vous ai dit là. Mais oui, vous pouvez me croire. Hein. Oui, oui. Bon, allez, on va changer autre chose. Hein. On va passer à autre chose. Tiens, on va faire du Méliès Maurice. Hein. Voilà. Hein. Alors, ce fut écrit jeudi 17 août 2017 à 5h02. Voilà. Parce que quand j'écris à 5h02, c'est que tout va bien. Si déjà je suis réveillé à 5h, c'est que j'ai bien dormi. Il y en a qui auraient été mal dormi. Non. Quand j'ai mal dormi, c'est qu'il est 1h du matin, j'ai toujours pas dormi. Hein ? Ça paraît logique, ça. Bon. Allez. Un petit morceau, s'il vous plaît. Vendez-moi une esquisse de sourire avec un petit morceau de votre langue si rose. Puis ajoutez-y un clin d'œil à peine soupçonné. J'aimerais obtenir de vous les plus belles miettes. Ne faites pas de paquets, c'est pour consommer maintenant. Avez-vous quelques boutons d'acné ? C'est pour retrouver mes jeunes années. Je cherche un béret, une cape noire des années 54. C'est pour me souvenir de ma maîtresse rousse qui portait des porte-jartelles quand j'étais en CM2. Et s'il vous reste des petites culottes échancrées de l'époque d'Hamilton, j'en prendrai une avec de la dentelle blanche. C'est pour offrir à une petite mémère qui en portait à l'époque de nos 16 ans. Et puis, soyons encore un peu fous. Sortez-moi de votre tiroir secret derrière vous des billes en verre et des Scooby-Doo. Je sais que vous cachez dans votre arrière-boutique des illustrés cochons qu'on lisait sous les draps à l'âge de la puberté. Et pour finir dans mes envies nostalgiques, accordez-moi un baiser comme ma grand-mère me faisait tous les soirs avant de m'endormir. Non, n'essuyez pas ma joue. Je voudrais garder ce souvenir le plus longtemps possible. Voilà. C'est pas beau, ça, hein ? Ben, et la poésie, c'est ça, c'est de se rappeler de sa jeunesse, de se rappeler de ses périodes de folie. Hein. Alors, l'histoire de ma maîtresse. C'est vrai, d'ailleurs, j'en ai fait un poème. Ça s'appelle « Ma première maîtresse ». Je vous le lirai un jour. Pour nous punir, elle nous mettait sous son bureau, figurez-vous. Mais quel spectacle ! C'était pas l'époque où les femmes, et encore moins les maîtresses, mettaient des pantalons. Elles avaient des jupes ou des robes. Mais sous les robes et sous les jupes, il y avait des bas tenus par des porte-jarretières. Et puis des fois des petits slips. Et en plus, elle était rousse. Sa peau était d'un blanc avec des petites taches rouges. Je les comptais des fois quand je me faisais punir exprès. J'arrivais jamais jusqu'au bout parce qu'il arrivait un moment où je disais, allez, vous êtes assez puni, sortez de là. Donc j'arrivais pas à tout lire, à tout compter du moins. Hein ? Incroyable ça, quand même. Bon. Mais, bon, je sais que je pourrais plus le faire parce qu'il n'y a aucune maîtresse qui va me foutre sur son bureau maintenant à 81 ans. Hein. Alors, il faut que j'imagine. Donc, je vais imaginer ou faire un rêve où j'irai jusqu'au bout de pouvoir compter ces grandes beautés. Hein. Alors, j'ai fait aussi un poème sur les grandes beautés d'une femme que j'ai connue, mais sans plus, comme une amie. Hein. Bon, faut pas déconner, attendez, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas Don Juan ou Casanova. Hein. Ah non, j'appelle. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Alors c'est vrai que des fois je me mêle un peu trop de ce qui ne me regarde pas. Bon, ça arrive. Mais c'est normal, hein, normal. On n'est pas fait de bois, hein, on est fait de chair. Hein. Ouais. Alors allez, bon, on va continuer. Alors, allez tiens, oh, après un petit Victor Hugo, un Prévert. Hein. Alors Prévert, le salon, c'est l'été. Un terrassier ivre de joie de vivre, tout simplement, danse sur un trottoir. Il fait beau. C'est le soir et le goût du bonheur et le désir d'amour lui font oublier l'heure. Est-ce sa jeunesse qui le fait danser ou bien qui lui fait danser sa jeunesse pour qu'il fasse oublier la fatigue du chantier ? On ne sait. Soudain, il s'arrête net devant la porte d'un bel hôtel particulier. Sous le porche, une lanterne au dernier goût du jour, piquante vulgarité, très Saint-Germain-des-Prés, d'une lumière un peu rouge, éclaire l'entrée. Le terrassier cligne de l'œil du connaisseur devant cette engageante et clignotante lueur. Un souvenir tout simple, ça reste sa mémoire. Fée nue, déesse intéressée, mais si facile à aimer, à caresser. Il franchit le porche, très à l'aise, comme chez lui. Des loufias aux mollets gainés de blanc le laissent passer, un peu surpris. Mais ils en ont vu d'autres. Et peut-être qu'on donne ici ce soir aussi un bal travesti. Des invités en habits et robes du soir, ou en impeccable négligé, entourent le maître et la maîtresse de maison. La maîtresse de maison est belle, et le maître de maison assez singulièrement beau garçon. Tout le monde boit du champagne. Les dames sont très décolletées, c'est-à-dire aux trois quarts nues, enfin, le plus possible. Le terrassier, qui est beau, comme elles sont belles, ne passe pas inaperçu. C'est vraiment du tonnerre, cet audacieux débraillé, dit une très charmante poupée, déshabillée à ravir par de très grands couturiers. Le terrassier s'assoit et fait son choix. C'est-à-dire que, buvant un verre, il fait signe au loufia qu'il se sert, qu'il le sert, désignant celle sur qui il a jeté son dévolu, la maîtresse de maison. Oh ! Le loufia s'éloigne sans comprendre et la maîtresse de maison, très occupée, n'a même pas vu le terrassier. Mais le maître de maison, lui, tout de suite l'a remarqué. Il s'avance vers lui, élégant, minaudant, prime sautier, et profitant de l'atmosphère de fête et du brouhaha général, s'assoit sur ses genoux et le prend par le cou en toute intimité. Ouah ! Le terrassier se lève et le maître de maison tombe, chatouillé la carotide sous les bras et le monument s'écroulera, dit le terrassier hilar, histoire de faire rire ce monde. Oh ! Et les invités en dansant répètent ce mot charmant, curieux, surprise et amusé. La maîtresse de maison s'approche, le terrassier l'examine de très près, la palpe, la retourne et déçu hoche la tête. Mais la maîtresse de maison veut à tout prix danser avec ce surprenant invité clandestin et qui est, à vrai dire, le clou de la soirée. Résigné, il danse avec la patronne, parce que ça se fait, et comme elle est un peu ivre, perdant toute retenue, elle danse comme en rêve. Elle danse à la dérive, rivée au clou de la soirée, comme la riveuse à son rivetier. Le maître de la maison, horriblement jaloux, et non seulement de sa femme trépigne, appelle ses gens. Mais soudain, le se calme, et soucieux d'éviter le scandale, les renvoie en baissant la voix, puis dansant léger dans un miroir, met un peu d'or dans sa toilette, avec un petit sourire légèrement chiffonné. Le terrassier, tout en dansant, le regarde faire amuser. Soudain, il découvre dans le miroir l'image d'une camériste qui, doucement, un plateau à la main, traverse le salon. Elle est noire et très belle, belle de partout, noire de Baïa et de Harlem. Le terrassier se précipite, abandonnant sa cavalière, renverse le miroir, le plateau et les verres. Enfin, danser avec la belle. Il oublie tous les deux le salon. Ils oublient le décor. Alors, le décor change. Voilà. Bon, alors, attendez, si j'ai oublié quatre lignes. Bon. Et ils dansent où ils veulent, sous un ciel étoilé pour eux seuls. Ils dansent l'amour qu'ils veulent auprès d'un lit défait et le rideau retombe, épais, lourd et discret. Voilà. C'est pas beau, ça ? Du Prévert, vous vous rendez compte ? C'est joli, hein ? Ah, mais je savais que Prévert était capable d'écrire des choses pareilles. Hein. Moi, Prévert, c'est mon copain. Ben ouais. Je le rencontre régulièrement deux ou trois fois par semaine. Ben, je le rencontre au travers des livres que j'ai de lui. Parce que je lis mes poèmes à la radio, mais j'en lis aussi chez moi. Ben oui, parce que ça me fait plaisir de les lire. Hein. Bon, on lit pas, je sais pas, j'ai pas acheté des livres de poésie rien que pour vous. Bon, et pour moi aussi. Bon, hein. Vous êtes un peu égoïste, là, mes auditeurs et auditrices. Hein. Et moi, alors hein. Bon. Alors, tiens, on n'a pas parlé, mais je voulais vous faire un festival Jean Ferrat. Et alors là, ça, c'est super beau. Aimer avant de perdre la raison.
Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire. À n'avoir que toi d'horizon. et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Est-ce que vous avez déjà aimé à perdre la raison ? Eh bien, moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, figurez-vous. Et c'est souvent quand c'est un amour pas possible, vous voyez ? C'est-à-dire, vous aimez une personne, mais il n'y a pas de retour. Ou du moins, s'il y a un retour, c'est il est tellement timide qu'il ne va pas jusqu'au bout. Vous êtes frustré. Et vous avez votre cerveau qui travaille dans le négatif. Ça peut durer longtemps. Ça peut aller jusqu'au envie de se suicider, vous voyez ? C'est grave, hein, c'est grave d'aimer à perdre la raison. Hein. Et il explique bien, hein, Jean Ferrat. Alors ça peut lui peut-être pas arriver, lui, hein, parce que je veux dire que les gonzesses lui courent après. Hein. Bon, moi ça n'a pas toujours été le cas, hein, bon. Surtout quand j'étais jeune. J'étais tellement timide, comment voulez-vous qu'une gonzesse m'approche si je n'arrive même pas à lui dire bonjour, hein, par exemple ? Je n'ai pas été jusqu'à lui dire « Ah, tu me plais bien. Ah, tu pourrais pas être ma gonzesse des fois, par quoi hein ?» Non, j'arrivais pas. Impossible. Bon, pour la peine, je vais vous lire un de mes poèmes. Alors, ça s'appelle « Plusieurs tours de con », figurez-vous. Et ça fut écrit en 2012. Et là, à 22h25, donc avant de m'endormir. Je respecte les victimes de barbecue, les cathos, les bobos, les maboules, les babacoules, les musulmans, les boubous bariolés, les orthos, les prothèses et les administrés. Mais je suis humain, et même eu-pied, sans nez, et aussi eu-cœur avec tous, mais de mieux en plus le vainqueur de mes impulsions du mâle et des femelles. Celles qui vous racontent des histoires à ne pas dormir debout la nuit et au bout de ligne, parce qu'on largue les wagons avant d'avoir terminé son coït vagabond. Et du coup, vous êtes à trousse-chemise, sans franchir le pont du Rémido. Mais comme vous êtes sur la réserve et que le héros argenté quitte la boîte de nuit en bas du phare des baleines, vous vous dites « Qui suis-je ? Où suis-je ? Que fais-je ?» Et du coup, vous vous dites « Je fais le con. Le con de quoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Avec qui ? Et comme vous n'êtes pas aussi con que vous le dites, pour moi, et oui pour vous aussi, car parfois, il faut être son propre con pour deviner les autres cons autour de vous. Et voilà. Moralité, faites un tour de con sur vous-même, et vous verrez les autres qui vous encerclent, puisque les cons n'aiment pas rester seuls. Voilà. C'est vrai ? Bah oui, c'est vrai. Bon. Bah, la preuve, c'est que je l'ai vécu, hein, bon. Non, je l'ai vécu, pardon. Alors, tiens, un petit... Allez, proverbe, bon, vous savez, hein, je viens de vous dire pourquoi. Hein. Il a écrit un très beau poème. Ça s'appelle « Au hasard des oiseaux ». J'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu. Mais maintenant, tout est arrangé. On s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je les regarde, je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux. Ils donnent l'exemple, par exemple, comme par exemple M. Glacy, qui s'est remarquablement, courageusement conduit pendant la guerre et où l'exemple du petit Paul, qui était si pauvre et si beau et tellement honnête avec ça, et qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche et si vieux et honorable, et si affreux et si avare, et si charitable et si pieux. Ou par exemple, cette vieille servante, qui eut une vie et une mort exemplaires. Jamais de discussion, passa l'ongle claquant sur le dent pour passage de discussion avec monsieur et avec madame au sujet de cette affreuse question des salaires. Non, les oiseaux donnent l'exemple. Les hommes, comme il faut, l'exemple des oiseaux. Exemple des oiseaux. Exemple des plumes, des ailes, du vol des oiseaux. Exemple de nid, les voyages et les chants des oiseaux. Exemple la beauté des oiseaux. Exemple le cœur des oiseaux. La lumière des oiseaux. C'est pas beau, ça ? Alors, grâce à ce poème, eh ben, j'ai installé beaucoup de nichoirs, enfin de nichoirs, de mangeoires aussi, et les oiseaux viennent me voir. Alors, c'est moi qui pense qu'ils viennent me voir, mais au final, ils viennent bouffer ce que j'aurais donné, hein, c'est sûr. Et alors, avant, l'année dernière, je voyais comment on appelle ça ? Oh, merde, celui qui a des plumes rouges, là. C'est pas le pivert, c'est le piquet-pêche, voilà, piquet-pêche. Eh ben, il est revenu cette année, ouais. Je l'ai revu. J'ai pas eu le temps de le photographier parce que je me suis installé un peu pour bon, un petit repère à partir de la fenêtre de ma chambre. Toutes les nichoirs et puis les mangeoires sont à quelques mètres de la fenêtre. Et de là, je peux les photographier avec mon appareil qui a un zoom. Voilà. Et je peux faire des gros plans. Et j'en ai vu un. Il pleurait de joie quand il a vu que je lui ai mis ses graines qu'il aimait. Je savais que lui, il aimait ces graines-là. Et il regardait la fenêtre parce qu'il savait que j'étais derrière. Et j'ai vu une larme qui coulait. Oh, c'était beau, j'étais ému. Bon, j'ai pas eu de larmes, moi, parce que, bon, on n'a pas des larmes pour un oiseau. On a eu des larmes pour une femme, pour un enfant, pour un chien. Mais un oiseau, d'abord, il ne m'avait jamais donné son nom. Je ne savais pas comment il s'appelait, cet oiseau. Enfin, si, sinon que c'était une mésange. Mésange bleue. Hein. Mais bon, sinon, il ne s'appelait pas Kiki, hein, ou Coco. Bon. Non, non, c'était un oiseau anonyme, on va dire. Voilà. Alors là-dessus, tiens, figurez-vous que j'ai un monsieur, un poète, qui a écrit sous un autre nom. Alors, il a écrit sous le nom de François Eva. Et en fait, ce salaud s'appelle Jean-Pierre Ménard. Vous vous rendez compte ? C'est comme moi, si Maurice Méliès, hein, d'un seul coup, s'appelait Jules Maurice, hein ? Quoi ? T'as regardé... Marie-Reine, t'as regardé sur Facebook ? Et il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Jules ? Ah oui, c'est moi, et alors ? Je t'ai pas dit d'aller fouiller dans mes histoires. Bon, reste à ta place. T'as jamais dit d'aller fouiller sur Facebook si j'y étais. Et tu voulais être ma millième amie ? Non, ça y est, c'est fini, là. Ça y est, j'en ai 1000. Ça suffit. Je veux pas aller plus loin que 1000. Ah non, après, ça devient dingue. Hein. On en a trop, après. 1000, ça suffit. Il y en a qui ont 2 seulement. Bon, c'est leur problème. Et il y en a qui ont 2 000, 3 000. Moi, je m'arrête à 1000. Voilà. 1000. Je veux plus d'amis. J'en ai 1000. Ça me suffit. Voilà. Donc, ne compte pas là-dessus. Hein. Non, non, tu resteras... mon auditrice privilégiée qui peut me répondre pendant mes émissions. Hein, et que je peux t'écouter. C'est déjà pas mal. Hein. Il n'y a que toi qui es comme ça. Hein, alors qu'il y a des centaines de femmes qui aimeraient être à ta place. Hein. Bon, alors, bon, allez. François Eva. La belle et le nabo. Vous savez ce que c'est qu'un nabo, hein. Bon, vous allez vous faire un dessin. C'est quelqu'un qui avait des grandes jambes et on l'a coupé. Voilà. Je l'ai croisé par hasard en traversant le boulevard qui longe le fleuve hasard où les photographes d'art jongle avec la lumière du soir. Elle marchait avec classe sur des talons aiguilles qui mettaient si bien en valeur la finesse de ses jambes. ces déhanchements qui rythmaient si bien sa démarche, sensuelle, la beauté de ce corps, de la perfection si proche. Mon Dieu, qu'elle était belle, avec ses yeux brillants comme des rubis, à peine soulignés par un maquillage aussi discret que joli. Ses seins parfaits que l'on ne pouvait s'empêcher de voir danser dans le petit nid, douillet de son corsage, juste entr'ouvert pour le plaisir de nos yeux éblouis. Je l'ai suivie un instant, puis elle a disparu au coin d'un immeuble, gris, triste et sans âme, dans une rue sombre et inquiétante, qu'elle a dû éclairer de sa somptueuse et voluptueuse beauté. Mais la rue était vide et mon cœur, mon pauvre cœur troublé. Parfois, quand la vie se joue des tours, que le destin s'acharne sur ma carcasse avec méchanceté, que pleuvent les sarcasmes sur ma démarche boiteuse et mon dos voûté, je me sens point la colère. Mon esprit s'évade derrière la silhouette parfaite d'une jeune femme si belle. Et mon esprit noublé, sa profonde détresse et ma vie de nabo faite pour être moquée. Voilà. En fait, c'est le nabo qui parle de cette femme-là. Hein, eh oui. Bah, Dieu, il n'a pas dû être remarqué parce qu'elle avait le regard si haut qu'elle ne l'avait pas vu. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Alors, je tenais à vous dire que on y nous reste encore pas tout à fait 3 minutes. On a peut-être le temps de passer à Jean Ferrat. Et alors, il a raison, c'est beau la vie.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau. C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà haut, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, de le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
Et vous voyez que c'est beau la vie, hein, chanté par Jean Ferrat. Alors là, je suis obligé de vous dire au revoir tout de suite. Et je vous dis à l'année prochaine, à la semaine prochaine. Bise à toutes.